C'est sec là.
Alors, quand on passe ici dans la rue de Bosnie, on voit une annonce qu'ici se trouve le siège de l'AAAAAA. Et c'est la première fois que moi j'ai pensé, mais là, il y a quelque chose de particulier. Quoi. Je veux bien savoir qu'est-ce que c'est. Est-ce que vous pouvez me dire c'est quoi l'AAAAA et comment vous parlez un peu de l'association?
Ben, il n'y a pas grand-chose à en dire d'association. Mais je ne sais pas comment j'ai eu l'idée, après un livre et tout. Et puis je savais qu'il y a une association française qui existe depuis longtemps, qui a 5 A. C'est l'association des amateurs d'andouille. Tu sais, l'andouille, c'est une charcuterie française. Enfin, ils ont fait une association, eux aussi, et ils en ont... C'est très célèbre parce que c'est la plus longue abréviation de 5 lettres A. Alors moi, j'en ai dit, merde, je ne sais pas pourquoi, j'ai pensé à faire 6 lettres, tu vois ?
Oui.
Comme ça.
Mm-hmm.
Pas seulement pour ça, c'est parce que les abréviations m'énervent profondément.
Pourquoi ?
Mais parce que tu lis un article des journaux, en France particulièrement, les journaux français, dans un article, tu dis, eh bien, d'après l'avis du CQFD, au début, ils mettaient en bas d'article, c'était quoi le CQFD, tu vois,
hein? Mm-hmm.
Mais maintenant, c'est fini. Tu es censé savoir ce que le CQFD... Alors, hein, ça, tu peux avoir comme ça 3 abréviations dans un article et tu sais pas de quoi il parle.
Mmh.
Tu crois pas qu'il y a moyen de s'énerver avec ça?
Non.
Non, toi tu aimerais ça, ben moi pas. Quand on fait un article, c'est pour que les gens le lisent et que les gens le comprennent quand même, bordel. Sinon, à quoi ça sert de faire un article quand tu comprends pas ce qu'il écrit, le type?
Ouais. Et alors moi, je suis devenu membre perpétuel de l'association AAAAAA, et mon numéro de membre, c'est 386.
Oui,
et pour cette occasion, vous m'avez donné un certificat.
Ben voilà.
Bien marqué avec les 7 A, pardon, 6 A. Il y a tellement d'A.
AAAAAA.
Avec une notation, numéro 1. Donc là, en bas, on voit quand même qu'est-ce que ça veut dire.
Ouais.
C'est...
L'association des adversaires assidus, des abréviations absurdes et abusives. Voilà. Et alors, parallèlement à ça, j'ai écrit, enfin, je lisais, j'étais abonné à la revue des pataphysiciens, de la pataphysique. Et alors j'ai écrit un petit entrefilet parce qu'il parlait de fameuses andouilles. Hein. Et je dis, vous savez, il y a plus fort que la tradition française où il n'y a que 5 A. Moi, j'en ai fait une de 6. Et craque, ils ont publié dans la revue. Il y a une revue de presse comme ça. Et alors j'ai été...
Ouais.
Publié. Et alors par après, j'ai reçu.
Ouais.
Et aussi parce que j'étais un fidèle abonné. Maintenant, je ne suis plus abonné, j'ai annoncé. Mais comme j'étais fidèle abonné, j'ai un jour été promu.
Et alors vous avez signé le certificat comme président de la AAAAA.
Ah oui, je suis président, fondateur et secrétaire.
Et aussi membre par autonomie.
Ah ça, c'est le collège de pataphysique. Ça, c'est la fonction que j'occupe. J'en ai 2, donc ce membre par autonomie des hypothèses et piédestaux, de la sous-commission. La sous-commission, c'est pas encore une commission, c'est déjà. Mais enfin, c'est déjà pas mal dans la hiérarchie. Et après, j'ai un autre cachet, si tu veux, je peux te le mettre aussi, comme correspondant réel du collège, parce que j'ai publié, comme je t'ai dit qu'ils avaient publié un petit articulé comme ça de rien du tout. J'ai encore publié un autre truc, enfin, tout ça n'est pas important.
Ouais. Et aussi, donc c'est la sous-commission des hypothèses et piédestaux du collège du pape.
De pataphysique.
Pataphysique. C'est quoi en fait la pataphysique ?
La pataphysique, ça vient d'un. Un écrivain qui s'appelle Alfred Jarry. Mmh. En France, charnière des années. Fin du 19e, début 20e, donc avant la guerre 14, disons. Et il a écrit peu, mais c'est lui qui a créé le personnage de Ubu. Ubu. Très célèbre, dont le mot, par exemple, quand quelque chose est tout à fait Bach-Foldac, le mot ubuesque est rentré dans le dictionnaire. On peut employer le mot quelque chose qui n'a ni queue ni tête ou trop absurde, on dit c'est ubuesque, sans même savoir que ça vient de l'œuvre d'Alfred Jarry. Et dans un de ses livres, il parle d'un certain docteur Faustroll qui, lui, a inventé la pataphysique. Aussi, si la pataphysique, je te souhaite bon courage, t'intéresse, tu lis l'œuvre de Jarry, ou du moins le livre, ou les pièces de théâtre où Ubu est joué, et est toujours joué d'ailleurs, hein, c'est toujours des pièces.
Ouais. Écoutez, l'autre fois, on a parlé de vieux marché.
Ouais.
Le vieux marché.
Oui.
Ouais, le marché sur la
Opus.
Place. Opus, voilà.
Ouais.
Le vieux Met. Yeah. La Haut-de-Met. Ouais. Et là, vous m'avez raconté une histoire de monsieur qui avait quelque chose à voir avec un mot qui se trouve dans notre base de données de mots absurdes. C'est un mot Bucht van Sarma.
Oui.
Et lui, il avait quelque chose à voir avec ça. Vous pouvez me raconter l'histoire ?
Oui, bien volontiers. J'ai connu le marché depuis très, très, très longtemps. À l'époque, il n'y avait quasi pas d'arabes. Quasi pas. Et maintenant, je fais une parenthèse, car maintenant, le type, quand quelqu'un me dit « Oh, bah, il n'y a plus que des arabes sur ce marché !» Mais je dis, vous savez, le marché, c'est dur. Les Belges, ils ne veulent plus travailler. Ils veulent... Et heureusement qu'il y a encore des Arabes, sinon il n'y aurait plus personne sur ce marché. Tu vois, paf, hein, rinc, comme on dit. Hein. Et il y avait un monsieur, il s'est installé marchand. Ah, le premier, je crois. Et quand le marché était fini, cet homme faisait le tour de toutes les échoppes, une fois qu'il avait emballé, et il ramassait tout ce que les autres marchands avaient abandonné. Tu vois ? Et je travaillais, j'avais toujours la même place, près d'une vieille bruxelloise qui achetait des fonds de l'eau, etc. Ça marchait du tonnerre, son truc. Elle avait deux aidants. Ils sont morts tous les deux maintenant, d'ailleurs. Dont une femme très, très, très... Tous les trois étaient très sympathiques, mais au début, j'avais rien d'un marchand, j'avais rien de quartier, etc. Et il m'a fallu longtemps que ces gens, un peu comme les paysans ont, tu sais, qu'est-ce que c'est que ce type qui vient habiter mon village près de chez moi, tu vois, hein. Mais une fois que ils ont vu que je travaillais comme eux, j'étais ni plus ni moins, je ne pétais pas plus haut que j'avais le derrière. Là. J'ai été adopté. Et au contraire, parfois ils m'aidaient, tout, très bien. Et alors je reviens à mon monsieur arabe, et mon histoire que. Mais il ne ratait pas, et alors il ramassait des trucs, mais c'est le cas de le dire, tu n'aurais pas ramassé sur un bac, hein. Mais il venait d'un village là-bas, chez lui, il y a des années, ça. sûrement très pauvre, où un clou rouillé, c'était un clou rouillé. Tu vois, c'était quelque chose. Et lui, il arrive dans un pays, là, disons riche, même si nous étions pas riches, comme on dit, là, sur le marché, hein, mais c'était le paradis économique par rapport à son chez lui. Mmh. Et alors, je vais parler de cette dame, Simone. Simone. Et cette madame Simone avait appelé ce type Sarma. Tu sais ce que c'est le Sarma ?
Dis-nous.
Quoi ?
Dis-nous.
Sarma, c'était à l'époque une grande surface. Dès immédiatement après-guerre, ça s'est installé. Et c'était... Puis il y a deux, trois enseignes qui sont installées. Place de Brouckère, tu avais les galeries en SPAC, tu avais des magasins chics. Tandis que l'autre, c'était le truc des pauvres. Le Sarma, c'était vraiment... ça n'existe plus, cette différence entre les grands magasins. Maintenant, Colruyt, c'est moins chic que Delhaize. Tu vois, il y a quand même encore une différence. Mmh. Hein? Mmh. Mais à l'époque, c'était évident, quoi. Mmh. Sarma, d'ailleurs, on m'a dit, je ne sais pas si c'est vrai, que Sarma, c'est Société Anonyme de Récupération de Marchandises Avariées. Bon, peut-être à la base, même, c'est vrai, mais dans leur grand magasin, ils ne vendaient pas de l'avarié. Non, ils avaient, disons, prospéré dans leur entreprise de base, et ils ont sauté dans la charrette des grands magasins. Tu vois ? Et alors, cette femme dont je te parlais tout à l'heure, l'appelait, tiens, regarde, voilà Sarma, tu vois.
Oui.
Hein? Elle l'avait, parce que c'est comme dans un village aussi, que je te parlais de village, les gens ont des surnoms.
Mm-hmm.
Donc, oui. Évidemment, je te parle de l'ancien vieux marché, et surtout même du vieux marché que tu avais des Louis. Eh bien, il y avait un Louis Congo. Pourquoi Louis Congo ? Parce que sa spécialité, il rachetait des vêtements le plus bizarre possible, il en faisait des colis et il envoyait ça au Congo belge, où là, il avait un répondant sur place qui vendait ça, il faisait des affaires en or massif. Il transformait les loques, les vêtements usagés, mais... Dans, un peu méchamment, dans Tintin au Congo, tu vois un roi nègre avec un haut chapeau, huit reflets, tu vois, un pit, une queue de pie. Hein? Eh bien, c'était le métier de ce monsieur. Alors, au lieu de l'appeler monsieur Verstrade ou monsieur Verskuren, c'était Louis Congo, tu vois.
Oui.
Un marchand qui, en même temps, était pompier volontaire, c'était Louis Pompier. Tu vois ? Et un jour, pour une histoire politique, il y avait les spéciaux, ceux qui sont en civil, la sûreté de l'État, qui voulaient me poser quelques questions. Un jour, j'arrive au marché, et des marchands que je ne connaissais pas, et moi, je les connais. Louis, il te cherche. Il me cherche. Un deuxième, ou une femme. Louis, il te cherche. J'arrive dans mon Stam Café, dans mon bistrot, et le patron, c'est Louis. Ils sont venus. Ils te cherchent. Ah, je dis, s'ils me cherchent, ouais, je suis là, je ne vais pas... Je n'ai pas me planquer. Oui, mais quand même, je leur ai dit, vous savez, monsieur, nous, moi, je ne connais pas les gens comme ça, par leur... Moi, je connais Louis Pompier, il y a, comme je te l'ai dit, hein, Louis Congo, il y a Louis des livres. Ça, c'était moi, tu vois. Et là aussi, le vieux marché, il y a une cohésion anti-police extraordinaire. Extraordinaire. C'était comme un village. C'est toi qui m'as dit que le marché a beaucoup changé. Ben oui, le marché a énormément changé.
Et pourquoi vous étiez nommé Louis de Livre ?
Parce que j'étais bouquiniste, je vendais des livres. Mais personne ne m'a appelé. Parce que tu ne connaissais pas le nom qu'on te donnait. Tu vois, hein ? Mais mon patron de bistrot voulait me couvrir. Et il a inventé ça. Hein ? Il connaissait très bien mon nom. Mais pour pas être truc donneuse, hein, comme on dit. C'est curieux, hein, comme histoire.
Oui. Oui. Donc, à côté de M. Sarma, il y avait quand même d'autres noms.
Ben oui, ils avaient tous. Oui. Ben oui, tous avaient leur nom. Mm-hmm. Ou quasi tous. Ça ne m'intéressait pas. J'ai pas fait une enquête, tu sais. Mais je vais... Caliche, par exemple. Un monsieur, voilà. C'est Caliche. Un autre, Gamin. Gamin. C'était un homme dit... Comme une armoire dormante. Pourquoi l'appeler Gamin ? Parce qu'à l'époque, il venait peut-être avec son père, et alors c'était le gamin. Ça ne me revient pas, parce que je ne pensais pas répondre à ce genre de questions. Mais oui, ils avaient leur... comme dans un village. Oui. Et tu n'étais pas censé savoir... À Louis Congo, on disait pas bonjour Monsieur Congo, on disait bonjour Louis, tu vois.
Oui, oui, oui.
Hein? Et à Louis Pompier aussi, c'était bonjour Louis. Mais quand on parlait d'eux, c'était un surnom.
Oui, oui. Oui.